c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de La Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Eh bien, bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. Alors, je suis ravie de vous retrouver sur le 104.3 et j'espère que vous vous portez bien, profitant des rayons de soleil du mois de juin. Et oui, c'est bientôt l'été, dites donc. Bon, c'est vrai que nous avons quelquefois de la pluie, mais le dicton ne dit-il pas, juin, larmoyeux rend le laboureur heureux. En tout cas, juin est un mois béni, prometteur d'été, justement, temps des averses éparses, ce qui est normal, donc, mais aussi des rainettes coassantes, des tourterelles roucoulantes, des violettes, des pissenlits, du parfum des prairies inondées. Juin, temps des promenades, des gardenias, des soirées dansantes, un mois qui inspire Georges Moustaki.
C'était le mois de juin, la terre renaissait, et les dieux libertins m'invitaient à danser. Il y avait dans l'air un air de paradis, les robes étaient légères, et les filles aussi.
Jouaient les mains de lit, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine. Les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine.
L'amour faisait des siennes dans les corps et les cœurs, derrière les persiennes s'éveillaient les ardeurs, et tout n'était que chant, que soupir, que poème, dans les bois et les champs fleurissaient des « je t'aime ». Avec mélancolie, dans la douce lumière, ton regard m'a souri. La brise était légère et les filles jolies. Il y a eu dans l'air un air de paradis. Jouer le monde. l'été t'en joint, le mois où le ciel s'illumine. Jouer les mandolines, les flûtes, les hautbois. C'était en juin, le mois où le ciel s'illumine.
C'était donc Georges Moustaki, issu de son album « Tout reste à dire ». Et bien sûr, la parole, les paroles et la musique sont signées du chanteur. Pour notre rubrique « Saltant sur la planète », c'est Jean-Jacques Lauten qui sera avec nous aujourd'hui. Jean-Jacques Lauten, président de l'association Saints de Nature et de Culture, mais aussi adjoint à la mairie de Saint-Angoël, délégué à l'environnement. Et Jean-Jacques, comme tous ceux qui savent qu'il faut préserver la nature et notre environnement, est ulcéré par les dépôts d'ordures sauvages. Ensuite, on parle déjà vacances et quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous allaient faire un petit régime pour être présentable sur la plage. Pourtant, le surpoids n'est pas seulement qu'une question d'esthétique, mais cela a aussi un impact néfaste sur la santé. Eh bien, figurez-vous que pour nos compagnons à quatre pattes, c'est la même chose. Et nous en parlerons donc avec Christine Defort de la SPA d'Artois. Et ce sera le sujet de notre rubrique animalière. Et puis, divertissement ensuite avec Jean-Jacques Damor, qui comme chaque année nous présentera la fête de la chanson d'Arras. Ce sera la 13e édition qui démarrera le 17 juin.
Radio Plus.
Je passe tous les matins devant la vitrine à bouquins. Je passe sans détour et je viens chercher du papier bonheur en ces jours incertains. Je dis certes, ce papier ne vaut rien. Je vois bien que c'est bien elle à son teint, son destin, ses affaires sur son échelle et ses mains. Des livres qu'elle dépose avec soin, alignés dans la poussière un par un. J'arrive à l'école de bonheur, je m'en vais voir les copains. Je raconte ce que j'ai fait ce matin. Que j'ai serré la pince à Sartre fragile, à Poquelin. Que je me suis fait des poseurs fusées par Tintin. Les autres font des cocottes, des avions, des bateaux, des dessins. Et moi j'ai les ailes qui gigotent, l'air de rien. J'attends que l'horloge précise la sonnerie du refrain pour aller voir ma vitrine à bouquins. Si par bonheur vous passez devant le matin, entrez le sourire à la main. Si par bonheur vous croisez la vendeuse de bouquins, dites-lui, sois librairie pour demain. Dites-lui, sois librairie pour demain. Passe au mois de juin, une terrasse est pleine de bouquins. Je prends le soleil dans mes mains. J'y pagine ma journée comme j'y feuillette ses couplets. Je me sers un verre, j'arrime 2, 3, 4 ans. Je suis pas bien à l'école, dans son univers, en son sein. Je déteste les auréoles, les bons points. J'y laisserai volontiers mes plumes dans l'encrier pour les coups de poing. Pour aller voir ma vitrine à bouquins. Je passe encore devant. Tous les matins, je passe sans détour et je viens chercher du vieux papier bonheur pour ces jours incertains. Je dis certes, je suis relieur, je vous fais ça bien. Et je vois bien que c'est bien elle à son teint, son destin, ses affaires sur son échelle et ses mains. Quand je lui livre des livres, dès qu'elle range avec soin, je repars le sourire à la main. Si par bonheur vous passez devant le matin, entrez le sourire à la main. Si par bonheur vous croisez la vendeuse de bouquins, dites-lui, sois librairie pour demain. Dites-lui, sois librairie pour demain.
Quitter leur groupe de pop-rock électronique pour se consacrer davantage à la chanson à texte. Lulu, c'est leur nom. Ils sont lillois et c'est de l'autoproduction. Alors, notre enquête dans l'air du temps, une enquête qui encouragerait les filles à faire du foot. En effet, les filles de 13-18 ans qui jouent au ballon rond ont plus confiance en elles et se disent moins sensibles au regard des autres. Alors il y a une chanson sortie en 2010 qui dit « Toutes les filles qui jouent au foot sont moches », eh bien elles s'en fichent et elles ont bien raison. Alors revenons à cette étude sérieuse qui suggère que bien que le football féminin ne présente pas le même niveau de développement partout en Europe, il possède néanmoins de nombreux points communs en matière de répercussions sur la confiance en soi. La conclusion la plus importante est que, où qu'elles vivent et quel que soit leur niveau de pratique, eh bien les filles qui jouent au football ont davantage confiance en elles que celles qui ne pratiquent pas de sport et même que celles qui pratiquent d'autres sports. 80% des footballeuses ont davantage confiance en elles grâce à leur appartenance à une équipe ou à un club de football contre 74% des filles pratiquant d'autres sports. Alors en résumé, cette étude ouvre des perspectives encourageantes pour le football, un sport qui pourrait présenter une croissance énorme en Europe ces prochaines années.
Une intellectuelle, je sais à peine écrire mon nom. J'ai un QI de tourterelle, mais d'assez belles mensurations. C'est pourquoi dans ma salle de bain, tout enfermé à triple tour, je me prépare aux gants de crin, gros grain pour le grand jour du grand concours. Je me fais les chromes et je mastique, je me studioline le chignon. Je m'épile scientifique, je me tords les chevilles sur des talons. Mon corps pour unique fortune, puisque chez moi, y'a que ça qui plaît. Demain je quitte ma commune pour chez Geneviève de Fontenay. Car je rêve de devenir Miss France, qu'on me mesure les contours. Je rêve de devenir Miss France, je veux devenir bête à concours. Oui, je rêve de devenir Miss France, devant les notables du coin. Je veux monter en bikini sur des balances, et gagner mon poids en parfum. Je veux vivre dans des palaces, je voudrais que ma vie se soigne Dallas. Je veux épouser un footballeur et le tromper avec un chanteur. Je me vois petite sardine, maillot une pièce en papier d'alu, haï par toutes mes copines qui ne risquent pas d'être élues. Car je rêve de devenir Miss France, qu'on me mesure les contours. Je rêve de devenir Miss France, je veux devenir bête à concours. Ouais, je rêve de devenir Miss France, je rêve qu'on me voit partout, partout. Papa, maman disent que j'ai mes chances, et comme je suis têtu comme tout, je rêve de devenir Miss France. Demain je quitte le poids et tout le reste je mens. Demain je quitte le poids tout.
Merci.
Et si je perds, je ferai chanteuse au concours de l'Eurovision. Et si je repère, je présenterai la météo à la télévision.
C'était Eric Toulis, et oui, Eric Toulis qui a décidément beaucoup d'humour. Eric Toulis et sa Miss France qui voudraient épouser un footballeur, eh bien, se mettre au ballon rond pourrait être la solution, pourquoi pas. Alors, pour notre rubrique Saltant sur la planète, on retrouve Jean-Jacques Lauten.
Sur la planète.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
45%, c'est le pourcentage de Français qui jugent rédhibitoire que leur conjoint ne trie pas les déchets. Ils trouvent cela plus important que les idées politiques. Alors ce genre de statistiques pourrait nous faire croire et nous donner l'illusion que le Français est modèle. Et pourtant, Jean-Jacques Lauten, bonjour.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Alors, qui va parler aujourd'hui ? L'adjoint de la mairie de Saint-Angoël, délégué à l'environnement, à l'insertion, à l'emploi et au sport ? Ou alors le président fondateur de l'association Saint de Nature et de Culture ? Ou alors le citoyen, tout simplement, citoyen comme nous le sommes tous, mais révolté par ceux qui prennent la rue pour une poubelle ? Ou alors les trois peut-être, Jean-Jacques ? Vous vous insurgez contre les dépôts d'ordures sauvages ?
Tout à fait. Surtout, principalement sur les dépôts d'ordures sauvages dans la nature, que nos communes subissent de plus en plus, sur leur périphérie, et même à l'intérieur, dans certains, dans le creuse de, qui se situe dans des communes, où on peut trouver des dépôts très très importants, de déchets d'ordures sauvages, mais principalement des matériaux, des tôles fibro et autres. Alors c'est surtout ça, et également les déjections canines qui deviennent de plus en plus récurrentes.
Alors justement, Jean-Jacques, vous êtes un élu. Or, le gouvernement accroît la répression sur les personnes qui ne respectent pas la propreté des espaces publics. Un décret du ministère de la Justice a publié... précisément, en effet, précise les nouvelles sanctions applicables dès le 28 mars en cas d'abandon d'ordures ou de non-respect des règles de collecte. Alors, dans certains cas, l'amende encourue va être considérablement augmentée. Mais alors, que peut-on faire au sein d'une commune pour empêcher et les dépôts sauvages et la rue, les trottoirs pris pour poubelles, c'est-à-dire sur lesquels on jette tout et n'importe quoi, cendrier, papier, poubelles, bouteilles, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Qu'est-ce que vous pouvez faire au sein de la commune ?
Mais écoutez, par expérience, je pense que le français n'est pas, en la matière, n'est pas très discipliné. Et tout le monde sait qu'à partir du moment où on touche le porte-monnaie des Français, ils commencent à se poser les bonnes questions. Donc, à force de faire de la prévention, je pense qu'à un moment, il faut passer à un moment au côté répressif de la chose, en instaurant l'application de la loi, puisque les lois sont faites pour être appliquées, et de fait de distribuer, si on veut dire entre guillemets, des amendes aux auteurs des faits. Pour rappel, si ça peut intéresser notre public, je vais leur faire un rappel dans le cadre juridique justement de cette loi du 28 mars, qui précise qu'avant, pour les dépôts sauvages, alors je vais vous dire, ce décret transforme l'amende actuellement encourue pour l'abandon de détritus sur la République, passible d'une contravention de deuxième classe, soit 150 € en une amende relevant des contraventions de troisième classe, c'est-à-dire on passe là à 450 €. Et pour ces contraventions sont visées principalement les dépôts d'ordures, de déchets, de déjections canines, de matériaux, de liquides insolubles ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique. Donc vous imaginez quand même que le cadre juridique est quand même bien posé à hauteur de 450 €. Le décret maintient toutefois une amende de deuxième classe en cas de non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte et le tri sélectif. C'est-à-dire que pour les gens qui ne respecteraient pas le tri sélectif, éventuellement mis en place dans leur commune ou dans leur EPCI, une amende de deuxième classe est prévue à cet effet. Et je voudrais rappeler également que toute personne qui utiliserait un véhicule pour ou lors de ces dépôts sauvages entraînera automatiquement une surmajoration de 1500 euros avec la confiscation du véhicule. C'est quand même déjà des hauteurs d'amende qui sont quand même très très élevées, on est bien d'accord. Et je signale également que lorsque le dépôt de déchets occasionné entrave à la libre circulation sur la République passe en quatrième classe de contravention. Je m'explique. C'est-à-dire que de plus en plus, dans les chemins agricoles, vous avez des dépôts sauvages autour des communes. Et il faut savoir que ces chemins agricoles ont une utilité quand même, ils ne sont pas là par l'opération du Saint-Esprit. Ils sont quand même là d'utilité pour les producteurs, les cultivateurs qui travaillent dans leurs champs et qui automatiquement ne peuvent plus passer. Donc c'est bien une gêne à la circulation. Donc vous imaginez bien que la réglementation qui est mise en place peut être, comment dis-je, dissuasif à partir du moment où est-ce qu'on se l'applique. Récemment, sur 120, nous avons eu l'opportunité d'avoir un auteur qui a fait des dépôts sauvages avec son véhicule, qui a été pris en flagrant délit, si on veut dire. Mais il est passé au tribunal et cette personne mise en cause a quand même reçu une amende de plus de 500 euros.
Alors justement, Jean-Jacques, de plus en plus de villes instaurent des amendes à l'encontre des personnes coupables d'incivilité et les maires sont de plus en plus nombreux à lutter pour une ville propre. Alors il faut quand même savoir que par exemple à Béthune, on ramasse chaque année plus de 200 tonnes de déchets pour un coût avoisinant les 650 000 euros. Alors en fait, Jean-Jacques, il y a plusieurs problèmes là à résoudre. D'abord les dépôts dans la nature, on y trouve de tout, des matelas, des télévisions ou des articles électroménager, des bouteilles, des pneus, j'en passe, et des meilleurs, et ce qui est inadmissible, et puis quelquefois déposé par des gens censés donner l'exemple. Alors j'en ai connu, n'est-ce pas? Et c'est vrai que vous venez de citer l'exemple de cet individu, on va l'appeler comme ça, qui a donc écopé d'une amende, et ça c'est très bien. Et puis Jean-Jacques, il y a aussi le problème des sacs poubelles qui jonchent les trottoirs, parce que mis la veille de ramassage, et là bien sûr attention aux rats.
Oui, tout à fait. Un problème d'insalubrité qui peut exister. Mais bon, actuellement, il y a davantage de conteneurs. Les sacs poubelles existent presque plus. C'est des conteneurs qui servent pour déposer ces sacs poubelles. Je voudrais revenir justement sur le coût pour une commune lorsqu'elle ramasse 200 tonnes de déchets. Il faut quand même savoir au public, et qui est également des contribuables, que lorsque votre commune ramasse des dépôts sauvages à travers la commune, quand on dit un coût avoisinant à 650 000 euros, vous avez quand même la perte du personnel qui est mis à disposition pour ramasser ces dépôts sauvages, mais ensuite la commune ne peut pas les stocker chez elle. Donc elle est obligée d'aller dans des centres de tri, dans des déchetteries pour les déposer. Et là, c'est facturé à la commune. C'est-à-dire que les gens qui laissent dans la nature, les services municipaux des communes ramassent les déchets et vont les porter eux-mêmes en déchetterie, mais là, c'est la commune qui est payante. Donc, c'est le contribuable qui paye ce que les gens déposent sauvagement. Mmh. Ça, il faut également savoir. Et je pense que quand même, nous avons quand même une région, que ce soit sur les EPCI comme Artois-Com, la CAL ou la CAC ou autre, des déchetteries qui sont mises en place. Et on se pose souvent la question, comment se fait-il qu'on retrouve des télévisions et des matelas? Je présume que les personnes qui les déposent dans la nature les déposent avec un véhicule, un matelas ou une télévision, ça ne se porte pas comme ça sur le dos, ça se verrait. Donc ils les déposent avec un véhicule. Donc à partir du moment qu'ils le déposent avec un véhicule dans un endroit bien précis d'une commune, comment se fait-il qu'ils ne vont pas porter directement dans une déchetterie?
Tout à fait.
Ça c'est la question que tout le monde se pose, le pourquoi en état sauvage et pas dans une déchetterie. Alors que les déchetteries modernes ont un tri qui est effectué par rapport à l'électronique, par rapport au bois, par rapport au fer, par rapport à tous ceux qui fréquentent là-dessus. Par contre, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable concernant la déchetterie. Il est vrai également qu'il faut prendre la problématique aussi des week-ends. C'est-à-dire vous avez des gens le week-end qui font des travaux chez eux et qui se retrouvent avec des gravats. Et c'est beaucoup de plus en plus de gravats maintenant. De moins en moins, je trouve qu'on trouve de téléviseurs, de matelas ou autre. On en trouve encore, attention. Mais bon, c'est quand même en voie de diminution. C'est surtout les gravats actuellement de travaux. Donc il faut savoir également, pour le public, que lorsque vous faites venir une société chez vous, que ce soit un entrepreneur, une entreprise, bon, ces gens-là sont très corrects de toute façon, Lorsqu'ils font des travaux chez vous, le coût des travaux, ils englobent également le prix, puisque eux, ce sont des professionnels pour aller mettre dans les déchetteries les gravats, ils sont obligés de payer. Donc n'oubliez pas que dans votre facture, c'est vous qui payez également le dépôt de vos gravats dans les déchetteries. Mais parfois, il se peut, et ça arrive également sur notre commune, nous retrouvons des camions, je dis bien, des camions complets de gravats qui sont déposés à l'entrée de la commune sur des chemins agricoles. La preuve, c'est que de plus en plus de communes mettent des barrières. Et ces barrières-là, bon, elles ne durent que ce qu'elles durent en fonction des passages, des fois avec des quads ou autres, qui sont arrachés. Mais il faut savoir que tout ça, ça a un coût pour le contribuable. Mmh. Et lorsque vous avez des entreprises, enfin des entreprises, je veux dire, non pas des entreprises, mais disons, les conducteurs de ces véhicules de camions qui déposent, mais des dépôts complets de matériaux, de clames, de B13, de ciment, de autres dans la nature, excusez-moi, là, bon, c'est bien, c'est inadmissible, quoi, voilà.
Alors Jean-Jacques, je crois que vous êtes pris par le temps. Je pense que lors d'une prochaine intervention, on parlera des
déjections canines, si vous voulez bien.
D'un autre problème, oui, les mégots et les déjections canines. On fait comme ça, Jean-Jacques ?
Entendu.
Je vous souhaite une très très bonne matinée. Je vous laisse aller parce que je sais que vous avez vos obligations professionnelles en tant qu'adjoint.
Merci beaucoup.
Et donc à très très bientôt sur cette même antenne, Jean-Jacques.
Merci beaucoup et que personne n'oublie. On n'a qu'une seule planète, alors il faut la préserver.
Tout à fait.
Merci.
Merci à vous.
Bonne journée à tous. Au revoir.
Il me crie dessus, il m'insulte quand mon camion bloque la rue. Avance connard, allez plus vite bordel. Mais c'est que ça prend du temps de ramasser leurs poubelles. Et si je me dépêche trop, tout se renverse sur le trottoir. Même pour moi qui ai l'habitude, eh ben c'est pas jojo à voir. Ils auraient l'air malins, tiens, en glissant sur un tampon ou une couche sale, mais avance pauvre con. Salut, moi c'est Michel. Mais si tu sais, celui qui ramasse tes poubelles, celui qui sait tout ce que tu caches au fond de ton sac, tu crois que je l'ai pas vu, ta pommade contre les morbacs. J'ai un péché mignon, une petite manie. J'aime farfouiller dans les sacs à la déchetterie. Des menottes du curé aux cuissards de la mère Guillou. Mimi, il a tout vu, Mimi, il sait tout. Il se demande qui c'est qu'a tué la petite Aronée. Mais moi, j'ai vu une main dans le vide ordure du boulanger. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, je suis pas là pour juger. Se boucher le nez, fermer les yeux, c'est la base du métier. Salut, moi c'est Michel. Mais si tu sais, celui qui ramasse tes poubelles, celui qui sait tout ce que tu caches au fond de ton sac, t'as beau les planquer, moi je les vois, tes bouteilles de Jack. Oh les filles, bien sûr, bah elles me parlent pas trop. Mais moi je les ai déjà toutes vues à poil en photo. Je sais quand elles ont leurs règles et quand elles sont en cloque. La petite Marion, 13 ans, c'est sûr ça m'a fait un petit choc. Ils peuvent bien me trouver crado et dire que je pue. J'ai pas vraiment envie de m'en faire des copains non plus. Depuis que je vois tout ce qu'il peut y avoir dedans, je dois vous dire, moi j'aime plus trop les gens. Salut, moi c'est Michel. Mais si tu sais, celui qui ramasse tes poubelles, celui qui sait tout ce que tu caches au fond de ton sac, des pornos aux revues facho, c'est moi qui le vide ton sac.
Elle s'appelle Guédré, cette charmante demoiselle qui chante avec un réalisme à faire peur. On passe tout de suite à notre rubrique animalière et pour laquelle on retrouve Christine Defort de la SPA d'Artois.
Paul Léoto disait « Les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. » C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre, et je parle de toutes les bêtes.
Alors la plupart de nos chiens ou chats sont trop enrobés, victimes, comme beaucoup d'humains, du mal du siècle. Le surpoids, ce qui met bien évidemment leur vie en danger. Oui, le mal du siècle, c'est le surpoids, on va dire, ils sont un petit peu trop enrobés, alors ça met leur vie en danger. Bonjour Christine.
Bonjour Martine, et bonjour à tous.
Alors, on sait bien que l'obésité progresse en France chez les humains, et les vétérinaires constatent que le surpoids est aussi le mal du siècle chez les animaux. 45% des chiens et 40% des chats sont en surpoids ou obèses. Alors, à ce rythme-là, on va rattraper les États-Unis. Exemple surtout à ne pas suivre. Alors, de où vient ce mal, Christine ?
Eh bien, ce mal vient de la nourriture industrielle, appétissant bien sûr des friandises, mais aussi beaucoup de la sédentarité. La vie moderne a entraîné aussi une prise de poids très inquiétante, donc chez les chiens, comme vous le disiez aussi, Martine, et chez les gens, chez les chiens, chez les chats. Certaines maladies hormonales aussi, telles que le syndrome de Cushing, l'hypothyroïdie, le diabète, peuvent entraîner une surcharge pondérale. Mais le surpoids de notre animal est dû le plus souvent à une consommation excessive de calories associée, bien sûr, à un manque d'exercice. La stérilisation amplifie parfois aussi le phénomène. Il y a aussi certaines races qui sont prédestinées à l'obésité, comme le labrador, le cane terrier, le cocker, le collet, le teckel à poils longs. Ils ont des besoins, ces chiens ont des besoins caloriques inférieurs aux autres chiens. Alors, donc, nourris comme les autres, ils auront aussi tendance à prendre de l'embonpoint.
Alors, c'est vrai qu'on met beaucoup ça aussi, parce que je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, Christine. La stérilisation, il faut savoir que un chat ou un chien stérilisé qui est nourri sans trop de calories, qui est nourri, on va dire, correctement, ne grossit pas. Hein. Personnellement,
non,
je n'ai aucun chien, aucun chat. Ils sont tous opérés et aucun n'a pris du poids.
Parce que vous leur donnez une alimentation saine, Martine.
Tout à fait.
Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que dans les 3 semaines après la stérilisation, l'animal va demander plus à manger. C'est normal, c'est hormonal. Donc il ne faut surtout pas céder et continuer à donner les mêmes proportions qu'avant la stérilisation.
Alors justement, beaucoup de maîtres sous-estiment l'embonpoint de leur chien. Alors quand peut-on dire qu'un animal est trop gros, Christine ?
Eh bien, quand son poids est supérieur à plus de 20% de son poids idéal. Donc vous pouvez aussi apprécier son embonpoint en passant la main au niveau de ses côtes. Si une couche de graisse de plus de 5 mm d'épaisseur, eh bien cela signale un début d'obésité. Et puis bien sûr, une précaution, c'est un petit peu comme nous aussi, Martine, il faut le peser régulièrement. Donc pour cela, bon, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous vous mettez avec votre animal sur le plateau de la balance, ensuite vous vous pesez seul et vous faites la différence pour avoir le poids de votre animal. Ou vous vous rendez chez votre vétérinaire à l'occasion. Souvent les vétérinaires ont une balance. Il faut toujours aussi peser sur la même balance. C'est quand même préférable. C'est exactement comme pour nous. Donc, il faut aussi surveiller le poids de votre... Si vous avez un chiot ou un chaton, il faut aussi surveiller son poids. Et si vous nourrissez trop, eh bien, il faut savoir qu'il fabriquera des cellules adipeuse, et ce qui, à l'âge adulte, eh bien, lui le prédisposera à l'obésité. Donc, sa croissance terminée, il faudra, bien entendu, le peser régulièrement, ajuster sa ration alimentaire, ne lui donnez pas de friandises ou donnez-lui un petit morceau de pomme ou un biscuit allégé. Donc, surveiller, c'est exactement le même comportement que nous, on doit adopter.
Et puis, parce que, bien évidemment, un surpoids est néfaste pour sa santé, naturellement.
Oui, bien sûr. Oui, l'obésité entraîne une perte de vivacité, ça majore l'incidence des affections cardiovasculaires, des maladies de peau, ça entraîne du diabète, de l'arthrose, des cancers, ça réduit la résistance aux infections, ça augmente aussi les risques lors d'une anesthésie. Bref, l'obésité, eh bien, ça, elle réduit l'espérance de vie.
Alors, là, on a fait un peu de prévention, mais quelques conseils, Christine, pour lui faire perdre du poids quand le surpoids est installé, comment on fait pour lui faire perdre du poids ?
Alors, avant de le mettre au régime, il faut déjà changer son rythme en augmentant progressivement son activité physique. L'activité physique, c'est très important. Donc, il faut réduire aussi les apports caloriques. La ration journalière ne lui apporte que 60% de besoins énergétiques. Donc, en lui faisant faire plus d'exercices et surtout en réduisant l'apport calorique de ses rations, en lui donnant un aliment de régime hypocalorique, il faut aussi limiter les fringales. Donc, vous fractionnez la ration journalière en 3 repas. Et une fois qu'il aura retrouvé son poids de forme, donnez-lui une alimentation allégée. Et prenez conseil avec votre vétérinaire qui sera, lui, à même de pouvoir gérer l'équilibre alimentaire de votre animal.
Alors, Christine, lors de la prochaine émission, bien justement, nous parlerons alimentation. Merci Christine, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, d'ici la bonne semaine.
Merci à vous.
Diva.
Ma vacha grosse, est rendue dans le pré pour la faire passer. Il faut la pousser. Ma vacha grosse, ma vacha grosse, patate grosse. Mes poulons grosses, mes poulons grosses, elles sont toutes éplumées, quand elles sont toutes gonflées, les œufs sont tout écrasés par toute leur obésité. Mes poulons grosses, mes poulons grosses, aussi.
La chanson française, il y a ainsi des choses à découvrir. Et justement, chaque année, lorsque revient l'été, Jean-Jacques Dabord nous invite à aller nous éclater et découvrir à la fête de la chanson à Arras. Alors, bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Martine. Alors, très heureux de vous entendre.
Eh bien oui, Jean-Jacques, c'est la 13e édition de Fête de la Chanson, Fête, F-A-I-T-E-S. Et justement, pendant 8 jours, du 17 au 25 juin, eh bien chacun pourra vraiment faire de la chanson, écouter de la chanson et chanter de la chanson. 3 verbes qui vont prendre tout leur sens et vous allez nous dire pourquoi. Alors, faire de la chanson, cela s'adressera à ceux qui veulent écrire avec des stages et des ateliers d'écriture. Et cerise sur le gâteau, la venue de Claude Lemel, auteur de plus de 3000 chansons chantées par Joe Dassin, Dalida, Beco, Reggiani, Le Forestier, Hallyday. La liste est trop longue. Claude Lemel qui dévoilera peut-être quelques secrets, en tout cas des techniques d'écriture, je crois.
Oui, alors Claude Lemel, pour préciser auprès des auditeurs, l'été indien de Joe Dassin, c'est lui, quoi, l'un des plus grands tubes du XXe siècle. Claude Lemel en est l'auteur. Il nous fait l'honneur de venir le jeudi 22 juin à Arras. Il était venu il y a 2 ans parce que Hervé Lapalu, un artiste, et quelques autres lui avaient rendu un hommage à son répertoire. Il était venu sur le festival, il s'y était senti très très bien. Il trouvait que la qualité de la programmation, la convivialité, les rapports humains étaient assez exceptionnels. Donc il a dit je reviendrai animer gratuitement un atelier d'écriture. Alors c'est vraiment un honneur et il sera là le jeudi 22 juin.
Alors, écoutez de la chanson. Bien entendu, Jean-Jacques Damore, c'est quand même la première raison d'être de ce festival. Cette année, les chanteurs belges seront à l'honneur, histoire de nous donner la frite, n'est-ce pas?
Oui, alors c'est une grande nouveauté, vous avez raison de le souligner, Martine. Depuis la naissance du festival, il n'y avait pas de thématique particulière. Mais là, pour innover un peu, on a décidé de donner un coup de projecteur sur la création et sur le grain de folie de nos amis belges. Alors, on commence fort le samedi prochain, le samedi 17 juin, à Castelnau-d'Arras, avec Arnaud. Hein, donc, je pense que beaucoup de vos auditeurs connaissent Arnaud, qui fait aussi de magnifiques reprises du répertoire comme Les filles du bord de mer d'Adamo et bien d'autres. Enfin, c'est un immense chanteur écorché vif, et je pense que nous allons passer une grande soirée inaugurale. Et puis après, vont s'enchaîner 6 concerts avec Anne Pirlet, Vincent Delbuchet, Claude Semal, Claire Spineux, Sage comme des Sauvages, Antoine Hénaud. C'est des artistes originaires de Mons, d'Ostende, de Namur, de Gand, de Bruxelles. Et comme disait l'ancien président de Dilouda, peut-être que vous ne connaissez pas tous ces artistes, les noms de ces artistes ne disent pas grand-chose, mais quand vous les aurez vus sur scène, vous ne parlerez d'eux que pendant très longtemps. Donc, nous vous invitons à venir découvrir toute cette folie belge.
Arnaud, d'ailleurs, que l'on écoutera à la fin de cette interview, alors. Super. Et puis, enfin, chanter de la chanson avec un stage destiné aux personnes qui ayant déjà pratiqué le chant, eh bien, souhaitent approfondir leur technique et leur interprétation.
Oui, alors c'est bien que vous donniez aussi un focus sur les ateliers et stages, parce que comme chaque année, on permet à qui le veut, hein, je dis bien à qui le veut, il n'y a pas besoin forcément d'avoir de l'expérience, de venir s'initier au chant avec un stage découverte, qui est animé par des gens très très talentueux et très performants, un stage de technique vocale et d'interprétation avec une chanteuse lyrique. On fera pas des lyriques, mais elle est chanteuse lyrique, c'est Sophie François. Le stage d'écriture avec Claude Semal et aussi celui de Claude Lemel, on vient de l'évoquer, et des ateliers corps et voix tous les jours à l'hôtel de Guine. Voilà, donc ça, c'est pour... connaître sa respiration, sa posture, enfin voilà.
Tout à fait. Alors, fête de la chanson, eh bien, c'est aussi une multitude d'animations, de créations, de concerts gratuits, en plus des stages et ateliers. Bref, c'est 8 jours de rencontres pouvant être formidables, 8 jours de partage et de convivialité. Et on le dit chaque année.
Oui, c'est 8 jours pour s'amuser, pour échanger, pour partager, pour chanter ensemble, pour se restaurer aussi ensemble. Alors, on a donc là, le cœur battant du festival, c'est l'hôtel de Guine, au cœur du quartier des Arts d'Arras, près du théâtre et du palais Saint-Va. C'est ce qu'on appelle le village du festival en centre-ville. Donc, il y a une taverne où il y aura le plat belge du jour. On va manger beaucoup de frites cette année. On va aussi boire avec modération de la bière belge. Il y aura, bien sûr, les concerts gratuits. C'est ce qu'on appelle les heures avec, tous les jours à 18h15. Dans la cour magnifique cour de l'hôtel de Guine, on peut venir découvrir des horizons musicaux différents. Ça peut aller du hip-hop au lyrique, en passant par le jazz et bien d'autres genres musicaux. Il y a les interviews publiques des artistes. Il y a la boutique d'Olivia où on peut trouver des disques et des CD rares de chanteurs moins médiatisés. Et puis il y a bien sûr les fameuses boîtes à chansons qui sont pour nous les karaokés bio. Plutôt que de s'abîmer la voix en courant derrière une machine, on offre la possibilité aux spectateurs de monter sur scène avec des pianistes en vrai, de vrais pianistes, et qui vous accompagnent, qui vous portent, et devant un public bienveillant. Voilà, c'est des moments merveilleux à partager et en perspective.
Et puis, comme les années précédentes, eh bien, ce sera très convivial, très éclectique, mais aussi très dense. Mais heureusement, justement, Arras possède des structures pour accueillir tout le monde. Vous avez parlé de l'hôtel de ville, mais ce sera un petit peu partout dans
l'hôtel
la ville.
L'hôtel de
Guine. L'hôtel de Guine, oui, tout à fait. Oui. Mais oui. Ce sera aussi un petit peu réparti dans toute la ville.
Oui, oui, alors il y a à la fois donc l'hôtel de Guine, le cœur battant, après, pour la journée, quoi, entre 11h et 20h tous les jours. Du 17 au 25, on est sûr de trouver des animations, de manger des bonnes choses, de rire, de chanter, et beaucoup de choses gratuites. Et après, le soir, les spectacles ont lieu soit au théâtre, au casino, la ruche, c'est une salle universitaire, le pharos à l'autre bout d'Arras. Et puis, le 24 juin, dans les rues de la ville, il y aura des animations festives et très colorées venant du monde entier, enfin pas du monde entier, mais de d'autres horizons géographiques. Mmh.
Et puis le spectacle sera aussi dans la rue.
Voilà, c'est ce que je... Voilà, le spectacle sera dans la rue. Et il sera dans la rue notamment dès l'inauguration le samedi 17 juin avec l'opération Le Marché qui chante au pied du Beffroi. C'est la troisième année que nous le faisons. Et ça a connu un succès fou. Commencer un festival en allant vers la population. Pas en attendant qu'elle vienne vers nous, mais en allant vers elle. Et donc avec l'orchestre de cuivre du Conservatoire d'Arras, on va inviter les gens à chanter belge, donc les filles du bord de mer d'Adamo, et on va distribuer les textes et tout ça, et ça va être encore un grand moment. C'est gratuit, c'est chaleureux, c'est au pied du Beffroi d'Arras, donc c'est facile à trouver, à 11h30 samedi prochain.
Et justement, Jean-Jacques Damore, chaque année, cette fête attire beaucoup de monde et c'est une véritable réussite à chaque fois. Alors bravo à l'association Didouda organisatrice et bravo aussi à tous vos partenaires car ils sont nombreux.
Oui, ben alors les partenaires publics, hein, la ville d'Arras, la communauté urbaine, la région, le département, la SACEM bien sûr. Et aussi une trentaine de PME, de petites et moyennes entreprises qui nous soutiennent parce qu'ils font confiance à la qualité de ce qu'on propose à la population.
Eh bien Jean-Jacques Damore, merci. Alors ce sera donc à partir du 17 juin et ce jusqu'au 25. Alors comment se procurer le programme, comment avoir des places et comment s'y rendre?
Alors, ben ça c'est les infos pratiques, évidemment déjà vous pouvez, tout le monde peut aller sur le site de didouda.net, là vous pouvez télécharger le programme, sinon pour vous procurer des places pour les concerts, c'est au théâtre d'Arras, mais c'est aussi le réseau France Billets avec la FNAC, Carrefour, Géant et Intermarché, donc ça vous pouvez trouver sur les sites internet. Sinon, un numéro à retenir, 09 71 00 56 67, tous les après-midi, cette semaine, le théâtre d'Arras, Thomas, le très chaleureux Thomas, vous donnera toutes les informations. Les prix sont pas très chers. Pour Arnaud, c'est 30 euros, tarif réduit 20, et pour tous les autres concerts, c'est 20 euros, tarif réduit 10. Avec la carte de Didouda, 16 euros, au bout du tout, on obtient, c'est une sorte de passe festival, 10 euros de réduction sur tous les concerts.
C'est en tout cas moins cher que le spectacle de Céline Dion.
Oui, absolument, il y a d'autres concerts.
166 euros la place.
Oui.
Alors comme chaque année, eh bien, on vous souhaite beaucoup de fréquentation hein, et que la fête soit réussie. Et puis tenez, on va s'y croire déjà un petit peu en écoutant Arnaud justement, qui donnera le concert inaugural. Alors donc je répète, ça sera le samedi 17 juin au Casino d'Arras à 20h. Arnaud qui remplit les salles depuis le début de sa carrière. Arnaud le Flamand Rock. Merci Jean-Jacques.
Merci Martine pour votre soutien et votre confiance et bienvenue sur le festival ainsi que tous vos auditeurs.
Merci.
Ça commence vendredi. Samedi et comme là où vous êtes situé, vous aurez dans la Voix du Nord de mercredi un 4 pages spécial qui présentera le festival. Donc sur votre territoire.
Merci à vous Jean-Jacques et très très bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
La vie est belle. cher. La vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker même quand il dort. Tout le monde cherche la vérité. Ils font les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher.
Arnaud, donc Arras, le samedi 17 juin à 20h. Et le 17, eh bien, c'est déjà ce samedi, veille de fête des pères. Donc, une bonne fête à vous, tous les papas à l'écoute. Et on se retrouvera le week-end passé. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Et à suivre Kaléidoscope avec son plein de musique et de chansons. Bye bye. Et très bonne semaine à vous. Très bonne semaine à ceux qui nous quittent maintenant.